Et ouais, pour la première fois vous avez écouté un générique de série en entier parce que c'était un crime de couper. Les podcasts c'est bien, on peut avoir des débats intelligents où des opinions contradictoires confrontent leurs vraies idées. Aussi, ça nous permet de parler de séries sans nécessairement prendre le temps de se poser, d'écrire un article, de se relire, de chercher des visuels sur internet.
Parce que penser... rester sobre.
Parce que penser du mal des séries, c'est bien, mais écrire du mal des séries, quelquefois, c'est un peu fatigant. Alors, des fois, on dit du mal des séries, mais on n'a pas le temps de l'écrire. Ce podcast va nous permettre de rectifier le tir, et à la manière de John or Die, l'émission de Craig Ferguson sur The History Channel, notre panel de Perdusiens va choisir la meilleure série dont on ne parle pas assez. Alors, ce sera peut-être la meilleure série de l'histoire de la télévision, celle avec la fille de Jane Manson. Ou peut-être que ce sera celle qui est beaucoup mieux depuis que le mec qui faisait les pubs de L'Oréal s'est barré. Ou celle qui est beaucoup mieux depuis qu'elle s'est débarrassée de l'auteur un peu con du livre dont elle est issue. Ou celle où des ours se baladent dans le 16e. Ou celle où des femmes discutent sans porter de talons. Ou celle qui est censée relancer un peu l'intérêt des comédies de NBC. Alors autour de moi, deux femmes, un homme, plein de possibilités. Iris, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Delphine, bonjour. Et Gégé.
Hello.
On commence avec Grey's Anatomy ?
Oui.
Oui, on peut commencer avec Grey's Anatomy.
Alors Iris, pourquoi Grey's Anatomy, c'est une série dont on ne parle pas assez, pourtant qui mériterait donc qu'on parle un peu plus.
Alors, déjà, parce que la manière dont elle gère les drames humains et les différentes conséquences émotionnelles que ces drames peuvent avoir sur les êtres humains est absolument fascinante. Ensuite, parce qu'elle a un cast avec beaucoup de diversité. Elle nous présente des... Elle a un message très, très progressiste. Et que les acteurs sont très bons. Je pense qu'on peut dire que les acteurs sont très bons. Et que c'est très très loin de la bluette que ça pouvait être à l'origine. C'est vraiment devenu plus une série sur les drames humains qu'autre chose. Et c'est vraiment super bien.
Alors cette transition, elle s'est passée quand? Parce que moi, les derniers souvenirs que j'ai de la série, c'est l'horrible saison où Catherine Hegel parle à un fantôme. Celle où Kyle Chandler se fait exploser dans les couloirs. Et celle où Tier Knight se fait rouler dessus par un bus, par un train, par un...
Ouais. Par une voiture, un bus ou... Ouais, un bus.
Et bah...
Ils y vont pas à la voiture dans Grey's Anatomy, ils y vont au bus.
Non, c'est soft. Hein. Je suis revenu pour un épisode où ils ont un accident d'avion.
Ah.
Oui.
Ah,
donc, à partir de quand on perd cette image de série... qui est un soap opéra un peu trop sensationnel, à une série humaniste comme tu l'as décrit.
Peut-être la mort de Tier Knight.
Ouais, il me semble.
Il est éclaté par le bus.
Oui.
Et puis dans n'importe quelle autre série,
voilà, ouais.
Dans n'importe quelle autre série, ce serait évacué en 10 minutes, genre tout le monde est triste, on va à l'enterrement et puis après les affaires reprennent comme d'habitude.
Et, comme Romano dans Urgence, quand il se fait tuer par l'hélicoptère.
Ou comme ils le font dans Urgence avec le... Ils ont exactement la même intrigue. Enfin, une intrigue très similaire.
Avec le...
Omar Epps.
Le stagiaire de Benton.
Le stagiaire de Benton, où Benton était particulièrement dur avec lui. On ne sait pas trop s'il s'est suicidé ou si c'était un accident, mais on découvre que le corps que Benton est en train d'essayer de sauver, ben, c'est celui d'Omar Epps.
Ce qui est assez surprenant à ce moment-là dans Grey's Anatomy, c'est que bah, ça revient assez souvent, la mort de leur ancien copain. Et ils sont marqués par ce deuil, et pas pendant 20 minutes, mais c'est pendant une demi-saison. Et c'est des choses auxquelles ils font référence assez souvent, c'est-à-dire que la disparition du personnage suite au départ de l'acteur n'oblitère pas complètement son existence dans la vie de la série.
Oui, ouais.
Et
même cette saison, je crois que qu'il y a été fait référence à sa mort.
Ouais, peut-être.
Il me semble, c'est possible que je confonde, mais il me semble que cette saison, il a été fait référence à sa mort.
Oui, elle en parle.
Mais tout comme de temps en temps, ils font référence à Izzy, ils font référence à des traumatismes liés à des choses qui se sont passées des presque maintenant des dizaines d'années avant, enfin une dizaine d'années avant, auparavant. Grey's Anatomy, ouais, gère hyper, hyper bien cette notion intrinsèque aux séries, qui est le temps qui passe. Et souvent,
l'épisode du divorce de.
Ah ouais. Les deux femmes, là.
Ouais.
Cali et Arizona.
Arizona et Cali, exactement.
On revoit toute leur relation, en fait, depuis le début. Hein. C'était brillant comme épisode. Brillant.
Tout à fait.
C'est, voilà, ils arrivent à remonter leur relation, à remonter tout ce qu'elles ont vécu, les tragédies qu'elles ont vécues en un épisode. C'était vraiment génial.
C'était très beau, effectivement.
Mais pardon, je t'ai coupé, Jérôme.
Non, mais c'est ça que j'aime dans Grey's Anatomy, c'est que souvent, on nous bassine avec l'idée que les séries, ça a une date d'expiration, c'est pas bien, il faut pas que ça dure trop longtemps, il faut qu'une série sache quand partir. Et Grey's Anatomy, ça fait 12 saisons. Et
j'ai pas envie qu'elle parte.
Et moi, c'est justement ce que j'aime dans les séries, c'est que ça dure longtemps.
Ouais.
Et,
moi aussi.
Et Grey's Anatomy.
Aussi, sur Grey's Anatomy, oui. Autant des séries comme Community, je suis très contente qu'elles se soient terminées. Autant Grey's Anatomy, j'ai envie de l'avoir continué pour toujours, quoi.
Oui.
Quand vous parliez de drame humaniste, on parle que de la vie des médecins ou est-ce qu'on a aussi les cas de la semaine qui nous marquent? Parce que ça fait
on
combien de saisons maintenant?
On a des cas de la semaine quand même assez marquants des fois.
Oui.
Ça fait combien de saisons maintenant, Grey's Anatomy?
12.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet de redite sur les patients? Et du coup, on doit rendre la vie des médecins un peu plus sensationnelle pour essayer de capter l'intérêt.
Les patients n'ont jamais été au centre
de la histoires, série, ouais.
Dans Grey's Anatomy, contrairement à Urgence où
ou les même Private Practice. Hein.
Pardon?
Ou même Private Practice.
Ouais, j'ai pas regardé Private Practice.
Moi non plus.
Mais contrairement à Urgence où effectivement les patients étaient quand même au centre des épisodes, hein, souvent, Grey's Anatomy ça n'a jamais été le cas.
Ouais.
Enfin, ou très rarement, c'est-à-dire qu'il y a...
Ouais, non, c'est vrai, il y a eu quelques cas marquants, mais
voilà, il y a eu des patients qui sont restés longtemps.
Pourtant, il y a des patients marquants, quand même, qu'on voit que le temps d'un épisode,
oui.
Notamment celle dans la dernière saison, dont on croit que ça va peut-être devenir la femme de machin, avec qui il a fait toute une rééducation et tout ça.
Ah oui, exact.
Et en un épisode, je me suis totalement attachée à elle,
oui,
vraiment,
j'ai trouvé que
c'était très réussi.
C'est vrai.
Et Grey's Anatomy a abandonné le côté effet miroir du patient parce qu'au début, dans les premières saisons, les maladies des patients reflétaient l'état d'esprit d'un des médecins. Et le médecin apprenait grâce à comment le patient se confrontait à sa maladie. Ça lui donnait une leçon pour sa vie quotidienne et donc il savait qu'il ne devait pas plaquer sa copine ou un truc comme ça. Et Grey's Anatomy a abandonné un peu ça et devient moins artificiel.
Oui.
Et là, c'est simplement des médecins qui soignent des patients qui sont hyper riches et qui n'ont aucun problème d'argent puisque de façon générale, tout le monde s'en fout de combien ça coûte. Apparemment, aux États-Unis, il n'y a pas de problème... pour faire des milliards d'opérations et de tests. Mais ouais, c'est vraiment hyper, hyper chouette.
Donc pour l'instant, on la garde pour la finale.
Bah, ouais.
Ok.
Oui.
Est-ce qu'elle va se faire détrôner par Olivia Benson?
Évidemment.
Et Law and Order Special Victim Unit, qui est juste la meilleure série d'histoire de l'humanité?
La meilleure de tous les temps. Hein.
Alors déjà, Jérôme, qu'est-ce qui fait que Law and Order... Spécial Victim Unit est devenu beaucoup plus intéressant à partir de sa 13e saison et qui maintenant est devenu l'une des pierres angulaires de notre planning télévisuel.
Mais non, mais moi je peux pas en parler, c'est à toi de nous expliquer tout ça puisque tu vas devoir redire maintenant tout ce que tu m'as dit rue Buzinval quand tu m'as parlé de Spécial Victim Unit où je t'ai demandé mais c'est vraiment bien. SVU. Drum m'a parlé pendant 10 minutes, m'a ouvert les yeux et j'ai découvert la meilleure série du monde.
La raison pour laquelle j'ai commencé SVU cette année, c'est que je m'étais décidé à ne regarder aucune nouvelle série de la rentrée et d'essayer de trouver une vieille série qui était à l'antenne qui pourrait avoir de l'intérêt. Donc j'ai essayé Law & Order Special Victim Unit. Le premier truc qui m'a vraiment vraiment étonné, en plus de la qualité des intrigues, c'est que on n'a pas peur de donner des opinions à ces personnages principaux. Il y a eu un épisode sur le Black Lives Matter où on nous explique pendant un quart d'heure comment une bavure judiciaire a eu lieu et un jeune homme noir se fait tuer par trois flics alors qu'il n'était pas le coupable du crime sur lequel les flics enquêtaient. Il s'en sort un épisode où on a notre héroïne Olivia Benson qui prend la défense des flics. On met notre héroïne, le personnage principal de la série, dans le rôle de défendre ce que l'opinion publique reproche à la police. Donc on explique déjà que c'est pas une situation aussi manichéenne qu'elle l'est. On a l'assistant du procureur, Raphaël Barba, qui... Alors là, je vous laisse l'autorisation de gasper parce que c'est juste le meilleur personnage à la télévision actuellement, le meilleur personnage masculin, qui lui rentre en contradiction avec Olivia et qui dit « Non, c'est une bavure policière. »
Oui.
Et dans l'épisode, on ressort avec chacun à son point de vue. Personne va réussir à vous convaincre de quel est le point de vue idéal qu'il faut avoir sur cette situation, parce qu'il n'y a pas, c'est pas simpliste, c'est très compliqué. Et chacun des personnages n'en sort pas sali. On peut tout à fait respecter Olivia dans sa décision de prendre la défense des flics. On peut totalement respecter Benson de prendre Barba. De prendre la défense du coupable, de l'homme qui a été assassiné. On voit aussi Barba être totalement submergé par l'opinion publique. C'est vraiment pas une série qui aborde son propos de manière uniquement pour faire venir le téléspectateur. C'est que à la fin de l'épisode, on en ressort totalement chamboulé, sans s'être fait une opinion sur ce mouvement, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Je vois pas comment on peut être compte d'ailleurs, mais c'était une série qui était
parce
vraiment...
que toutes les vies comptent, drame. Ouais.
Tu as vu le frontal.
Et ouais, c'était sur le coup une série qui m'a profondément marqué. Il y a eu plein d'épisodes thématiques qui sont vraiment la force de la série sur comment opérer à la réinsertion des criminels sexuels qui ont purgé leur peine.
Intéressant.
Il y a énormément de thèmes qui sont rarement abordés à la télévision, qui le sont de manière fine et qui sont de manière intelligente et qui ne trahissent jamais la psychologie d'un personnage.
Et tout ça en 41 minutes avec les coupures pubs.
En 41 minutes avec les coupures pubs. La série a bien sûr des défauts. Il y a toujours ces épisodes de crossover avec Chicago Fire qui plombent, qui tirent un peu la série vers le bas.
Ouais.
Mais quand même, on peut même trouver un attrait à ces épisodes. Mais c'est vraiment, vraiment une série qui est remarquable et je suis vraiment surpris qu'on n'en parle pas plus que ça à la télévision.
Enfin... On devrait en parler beaucoup plus, hein, je suis d'accord. Hein. J'en suis à la 16e saison, là. Enfin, j'ai vu la 17, hein, j'ai fait ça dans le désordre. J'ai commencé par la 17 et après j'ai regardé la 13, la 14, la 15 et là j'en suis à la 16. Hein, et je suis épatée par la qualité, la constance de cette série. Hein.
Alors moi, je viens de la commencer, j'en suis à l'épisode 3 de la saison 13. Enfin, j'ai commencé à la saison 13 comme vous me l'aviez conseillé.
C'est ce qu'il
faut. J'avoue que c'est très intéressant pour le moment.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la saison 13, elle opère à une transformation du personnage de Olivia Benson, qui était la partenaire, malheureusement, du héros de la série, un mec. Ils n'étaient pas traités de manière égale, où lui, c'était le mec qui était un peu brut, un peu macho, qui répond par le girl au crime sexuel. Et elle, c'était la voix douce et compatissante des victimes. Là, on voit vraiment un travail qui est fait sur le personnage de Lydia. Et c'est assez marrant de regarder. Alors, je fais la même chose. Je suis en train de regarder la 13, parce que je n'ai pas vu la 13 en entier. Et c'est très marrant de découvrir la saison 17. On voit une Olivia qui est à la charge du squad et qui est une femme qui prend le lead, qui prend des décisions et qui assume. Et de voir une Olivia en saison 13 qui doit convaincre, qui doit prouver sa légitimité.
Ah, moi, j'ai adoré voir d'abord la 17 et ensuite la 13. Hein.
C'est fascinant à regarder.
C'est génial, parce qu'effectivement, son évolution de personnage, et en plus de façon complètement naturelle, c'est-à-dire que, bon, tu sais ce qu'elle devient, mais en regardant la saison 13, tu vois déjà que c'était en elle, en fait.
Exactement.
Tu vois déjà que, en fait, elle attendait que ça, d'avoir sa voix propre, hein, et d'être en charge, hein, en fait.
Et...
Enfin, de donner le ton du squad, en fait.
Et pas que elle, même un personnage secondaire comme Finn, interprété par Ice-T.
Ice-T.
C'était très rigolo les sketchs de Mulaney où il expliquait que c'était un peu la voix du téléspectateur et il simplifiait les intrigues, mais ça va beaucoup plus loin. Le fait, sa relation
you
avec
mean
son
like
fils.
When someone smokes too many cigarettes.
la relation avec son fils homosexuel, le fait que maintenant c'est devenu une. La voix de la raison, la voix de la sagesse,
de l'expérience.
Le type qui dit ok, j'ai pas nécessairement d'ambition professionnelle, j'ai pas nécessairement envie de devenir sergent, j'ai pas nécessairement envie de faire plus, mais ça dénigre pas le fait qu'il est impliqué dans son job. Et
il veut faire son boulot correctement.
Et il le fait correctement.
Mais c'est ce que j'adore dans cette série, c'est que tous les détectives font leur boulot.
Et ils le font.
Ils le font avec leur conscience et ils le font bien et dans les règles.
Et de manière différente.
Oui.
Et de manière très différente parce que c'est pas. Alors, c'était Law and Order, surtout, c'est une série qui était plus. La série d'origine était plus portée par intrigue et on pouvait avoir un casting qui changeait assez régulièrement. Là, le casting qu'ils ont mis en place à partir de la saison 13, qui est plutôt stable entre la 16 et la 17,
oui.
Il est plutôt stable.
Oui.
Quand tu compares le générique de la saison 13 et le générique de la saison 17, il n'y a pas de grosse évolution que s'il n'y a pas une grosse évolution que si regardez entre la saison 1 et la saison 3.
Ouais.
Quand on voit un mec comme Carissi qui est croyant et qui doit gérer le fait il y a tout un épisode où il doit gérer la réinsertion de criminels sexuels. Quand tu vois le fait que Rollins gère de manière très très différente le fait qu'elle a un enfant comparé à.
Pas trop de spoil, s'il vous plaît.
Pardon, comparé à un autre personnage de la série, c'est super pertinent à voir, c'est super intéressant, et sincèrement, c'est la série qui me fait le plus réfléchir à la télévision actuellement, sauf quand il y a des épisodes avec les crossovers obligés, et c'est une série qui est brillante, et c'est une série network. Il n'y a pas besoin d'avoir des dragons, des nichons et des jurons quant à Olivia Benson.
Non, mais je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est rare dans la société actuelle d'entendre des personnages, enfin des détectives, des policiers, dire expressément plusieurs fois par épisode que peu importe que la victime ait bu, peu importe que la victime ait embrassé et commencé à coucher avec quelqu'un, si à partir du moment où elle dit non, l'autre ne s'arrête pas, c'est une victime.
Exactement.
Mais c'est tellement rare, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien d'entendre Olivia Benson simplement dire à une victime « je te crois ». Quand la victime dit « oui, mais personne ne va me croire, je l'ai allumé, ou j'ai bu, ou j'avais pris de la drogue, ou j'ai couché avec lui il y a 12 mois », enfin, c'est pour les victimes, je pense qu'il y a un côté réparateur qui est... Enfin, qu'on ne voit nulle part ailleurs, en fait. Et quand on voit à quel point les viols sont maltraités dans les médias, à quel point, de toute façon, quoi qu'il arrive, la femme, finalement, elle l'a cherchée, quoi. En gros, c'est ce qu'on veut nous faire croire. De voir ça à la télé, moi, je pourrais jamais me passer de Law & Order, de SVU. Hein.
Mais ça montre aussi l'importance de la série.
Je viens de dire parce que je l'ai déjà ressenti sur les trois épisodes que j'ai vus, ou peut-être 4 ou 5, je l'ai déjà ressenti.
Mais c'est un truc incroyable.
C'est plus incroyable, c'est nécessaire et c'est important, ça rentre dans une phase de pédagogie de son public. Et le fait de marteler régulièrement que la victime n'a jamais lancé de signaux pour être violée, c'est super important. Oui. Et même les rares cas de figure où j'ai vu un épisode où il y a quelqu'un qui ment sur un crime.
Ou c'est une victime qui... non, c'est pas une victime.
C'est quelqu'un qui... Alors, je ne vais pas spoiler, mais c'est quelqu'un qui...
Qui crie au viol alors qu'elle ne s'est pas fait violer.
Oui. En gros, Olivia dit c'est à cause de ce genre de femme qu'on ne croit pas les vraies victimes. Olivia.
Mais dans d'autres épisodes, il y a eu un autre épisode là, que j'ai vu il y a pas longtemps, hein, où il y a des victimes qui témoignaient alors qu'elles n'avaient pas été victimes, hein, et elles disaient que donc elles avaient menti en fait alors qu'elles avaient juré machin. Et Olivia disait, le DA va pas porter plainte parce que ce serait une mauvaise presse pour les femmes qui justement ont du mal à.
Ouais, c'est cet épisode que je pensais où effectivement. Ouais,
je pensais à une belle
histoire. Barba a envie de.
Envie de poursuivre en justice.
En justice, et Olivia lui dit, ben oui, mais le problème est que résultat, ça va devenir ces cas-là qui vont.
Ouais.
Qui vont être la norme, et effectivement.
Et même quand les victimes mentent, parce que ça arrive hein, souvent, mais mentent sur des détails en fait.
Ouais.
Olivia est toujours là pour dire c'est normal, c'est des réactions normales après avoir vécu avec
un trauma.
C'est normal de pas se rappeler ou de mal se rappeler ou d'omettre des détails. Toutes les victimes le font et ils répètent tout le temps. Il n'y a pas de victime parfaite, ça n'existe pas. Et le plus important, c'est de les croire, et le plus important, c'est de faire le boulot de détective et justement de savoir ce qui s'est passé. Hein.
Et ce qui est vachement bien dans la série, c'est que, comme c'est des crimes sexuels, la plupart du temps, les victimes sont vivantes. C'est-à-dire que dans la plupart des séries policières,
c'est vrai.
Les victimes sont mortes.
Ouais.
Donc elles n'ont pas la parole. Et, ouais. Et c'est en général le qui a tué qui est important. Or là, souvent dans SVU, il y a qui a commis le crime qui est important, mais en parallèle, il y a la façon dont va réagir la victime, comment elle va supporter le procès, comment l'image qui va être donnée dans les médias de l'affaire dans laquelle elle est impliquée, comment ça va impacter sa vie, la façon qu'elle a d'aborder l'affaire. C'est vraiment dommage que... parce que c'est une série procédurale, parce que c'est une série criminelle, elle soit mise dans les mêmes paquets que Criminal Minds, que les experts. Que...
Les experts, ouais, compagnie.
Ça n'a rien à voir. Clairement, c'est pas parce qu'elles partagent le même thème et le même format que tout ça s'est acheté à la poubelle.
Oui.
C'est une série exceptionnelle. Enfin, depuis. Donc ça fait 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 5 saisons. Moi je suis bluffé par un épisode sur 3.
Oui.
Et même sur les deux autres épisodes qui sont...
Et les autres épisodes sont juste... ne sont juste que très bons.
Juste oui. Efficaces, juste très efficaces, très bons. Mais pour revenir à ce que tu disais, il y a aussi le fait que les rares cas de figure où elle ne s'intéresse pas à des crimes sexuels, elle a quand même quelque chose à dire. Elle reste dans sa légitimité. Le fait que, pour reprendre l'épisode de Black Lives Matter, on parle d'un crime sexuel pour parler d'un thème beaucoup plus important, les deux sont importants, d'un thème totalement différent sur le mouvement Black Lives Matter. Mais il y a eu un épisode avec Whoopi Goldberg qui était horrible.
Il y a une semaine.
Sur les assistantes sociales.
Ah là là.
Qui était horrible.
Sur le travail, bon, ouais, où effectivement, les gens on poursuit des gens. Qui auraient mal fait leur travail, ils sont submergés, ils n'ont absolument aucun moyen, et effectivement il y a des situations tragiques qui s'en suivent, et ça devient des boucs émissaires. Elle fait Whoopi Goldberg, elle a dû avoir un Emmy pour ça, c'est obligé, mais le moment où elle explique, elle dit les choses, quoi. Elle dit bah ouais, le système il est complètement pourri, et c'est sur moi que vous gueulez parce que...
Quand vous avez fini votre enquête, c'est vous en lavez les mains.
Ouais, c'est
vous balancez le dossier et puis vous vous préoccupez pas de la suite.
Ouais.
Donc en gros, là on fait même un peu le procès de nos héros.
Mais c'est ça qui est...
Par leur système, et c'est ça qui est particulièrement judicieux dans cette série.
Non mais en gros, si vous avez aimé Urgence à un moment donné de votre vie de sériephile,
oui, regardez.
Et puis si vous connaissez pas Urgence, regardez tout simplement Law and Order et SVU.
Si vous aimez les séries, regardez Law and Order, SVU.
Bon, bien sûr qu'elle reste en finale, ouais, d'accord.
Et comme j'aime les séries, j'ai commencé à regarder Law and Order, SVU.
Ah.
Et aussi un peu parce que John Mulaney a fait un excellent sketch sur la série.
Et vous avez confiance pour la saison 18?
Ouais.
Ah mais complètement.
C'est la première fois où quand je vois
une actrice, change de showrunner.
Là, on change de showrunner, mais par contre c'est la première fois où je vois le nom d'un acteur ou d'une actrice crédité en tant que productrice qui me rassure entièrement. Le fait que Mariska Hargitay se soit posée avec Warren Knight, le showrunner qui a repris la série à partir de la saison 13, et lui dit quand il lui a expliqué la vision, elle était tellement contente qu'ils aient la même longueur d'onde et qu'elle est devenue la garante de la qualité de la série. Et le fait de me dire que son équipe reste intacte. On garde la même équipe, on garde Julie Martin en numéro 2, ouais. On garde Céline Robinson dans les scénaristes, on garde plein de noms qui nous ont vraiment plu dans les saisons précédentes, ils restent là. Et puis la personne qui vient, c'est quand même quelqu'un qui est connu de l'univers de Law and Order, donc c'est pas, je suis pas inquiet. Je suis même plutôt content de fait de voir Warren Knight, qui était le showrunner de In Treatment, se lancer dans une série médicale pour NBC. Ça me fait plaisir de le voir dans un autre registre. Et puis, ça montre aussi la force de Law and Order. C'est qu'on se plaint de séries qui ne survivent pas à un showrunner ou au showrunner d'origine, mais Law and Order, c'est quand même une série où Dick Wolf crée des concepts qui sont censés être maintenus par différents showrunners. C'est pas une série qui va s'écrouler si demain Dick Wolf prend sa retraite. Et c'est bien du 109 pour une série comme cette 18e saison. Non, moi je suis plutôt confiant.
Donc, oh là là.
On la garde en finale.
Ouais. Oh bah oui.
J'espère bien qu'elle va gagner.
Bah oui.
Même si la sitcom qui suit, Fresh Off the Boat, est quand même
intéressante. Ouais, elle est très bien.
Elle est assez intéressante.
On n'en parle pas assez, mais oui, elle est très bien.
On n'en parle pas assez. Donc c'était une série adaptée d'un bouquin.
Ouais.
Qui a subi un petit recadrage en saison 2. On a perdu la voix.
Ah bon?
Ah, c'est bien parce que moi j'avais arrêté la
saison.
Sérieux,
j'avais pas tilté.
Alors, en fait, le créateur du bouquin, enfin le mec qui a écrit le bouquin, s'est un peu distancé de la série et ils ont décidé comme un accord avec Natasha Khan, la créatrice de la série, de se séparer. Alors, vous, est-ce que vous avez vu une différence entre la saison 1 et la saison 2?
Bah, j'ai trouvé qu'on s'intéressait moins, enfin que l'ado, l'aîné, là, était moins au centre. C'était très bien.
Parce que ça laissait plus de place à la mère de famille qui est absolument brillante. Oui,
qui est géniale. Ils sont tous géniaux, même les deux autres gamins. Mais il n'y a vraiment que l'aîné qui me pose un peu souci. Mais oui, c'est clairement la série de... mince, comment elle s'appelle?
Constance Wu.
Qui est géniale.
Que j'ai découvert dans... Moi, je ne regarde pas Fresh Off the Boat, mais elle était dans une web-série avec des gays... complètement nulle, hein, la web série est vraiment pourrie, sauf elle qui était vraiment super.
Non mais
donc, effectivement, j'ai toujours pas
elle
vu l'épisode de Melrose
elle
Place.
Est excellente.
Alors, Constance Wu est géniale. Est-ce qu'on a un peu peur de l'effet Malcolm in the Middle, à savoir une série qui rentre dans une forme, une série familiale qui rentre dans un format efficace, mais qui au bout d'un moment va peut-être un peu nous lasser, parce que les mômes ils ont la seule idée de grandir.
Pour l'instant, les gamins sont pas non plus des stéréotypes, quoi. Pas comme dans Malcolm in the Middle, où quand même, il y avait le bonnet...
Des stéréotypes, quand même.
Oui, mais... ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent en faire autre chose. Hein. Enfin, qu'ils ont une vie en dehors de leur ligne de dialogue.
J'ai pas tellement cette impression.
Ah ouais.
Moi, il y a un truc qui m'avait gêné, je pense que j'ai arrêté la série au bout de 4 ou 5 épisodes de la première saison. C'était que parmi les enfants, il n'y a que des garçons, c'est ça?
Oui, ouais.
C'est pas un peu chiant, parce que Constance Wu se retrouve être le seul personnage féminin. On n'a pas de perspective...
Et si, parce qu'elle devient meilleure amie avec...
Elle devient meilleure amie avec une autre... une autre actrice, avec sa voisine. Et du coup, elle
prend d'importance.
Plus d'importance.
Ouais.
Et ça améliore la série.
Oui, parce qu'elles deviennent, enfin je vais pas te spoiler, mais en gros elles se mettent à retaper des maisons ensemble pour les revendre.
Ah.
Ouais.
Donc, Fresh Off the Boat, assez bien pour dégommer Grey's Anatomy ou SVU?
Il y a que deux saisons, donc c'est dur quand même de dire par rapport à Grey's Anatomy et SVU.
Grey's Anatomy qui est constante depuis, disons, 5-6 saisons.
Ouais. C'est un peu dur de... mais j'aime beaucoup, hein, vraiment.
Et moi aussi, j'aime énormément Fresh Off the Boat, j'ai rien contre elle, mais ça vaut pas Grey's Anatomy à mes yeux. Ça vaut pas toute la profondeur de Grey's Anatomy.
Ça aurait été beaucoup plus facile si on avait gardé Sleepy Hollow, comme je l'avais suggéré au tout début, hein.
Ouais, c'est vrai.
Bref.
Mais c'est terrifiant quand même de penser que Fresh Off the Boat, c'est la première série avec un cast entièrement asiatique. Okay.
Oui, depuis, je l'avais en parler justement.
Depuis ouais. Le Margaret Show, qui apparemment était une série qui a été diffusée genre il y a 20 ans sur la, ouais. Sur la Fox. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Pourquoi il n'y a pas.
Bah, c'est comme pourquoi est-ce que Blackish est une, hélas, une des seules comédies entièrement noires à la télévision aujourd'hui. C'est
le non, il y avait quand même des antécédents.
Il y avait quand même beaucoup plus. Non, mais il y avait quand même
des antécédents. Il y avait quand même une culture de sitcom black.
Mais oui, il y avait Girlfriends, il y avait The Game sur UPN. Il y a pas mal de. Enfin, le Cosby Show et tout ça.
Et puis il y a The Carmichael Show maintenant.
Le Carmichael Show. Les Asiatiques. Il y a un côté, c'est les derniers envers lesquels on a le droit d'être raciste, de faire des blagues nazes, machin, sans que ce soit vraiment un problème, comme avait fait, comme il s'appelle, au moment des Oscars, là.
Chris Rock.
Chris Rock. C'est étrange qu'aux États-Unis, on en soit. Il n'y ait pas plus de séries.
C'est étrange qu'avec 400 productions
à
l'antenne, il n'y en ait pas qu'une seule qui soit.
Non, c'est clair.
Faites avec un casting 100% asiatique. Bon, bah on va pas s'attarder trop longtemps sur Friends of the Boat, puisqu'elle est déjà éliminée.
Enfin, moi, je ne la regarde pas.
Donc, suite à Zoo. Parlons de Zoo, la série de CBS.
Oh là là,
parlez de Zoo.
Alors. Ah, donc, je ne peux pas en parler parce que j'ai vu que le premier épisode.
Mais Jérôme est fan. Jérôme est fan, je crois.
Alors, les séries estivales de CBS sont un peu particulières, hein, depuis Under the Dome.
Ouais.
On a des séries un peu étranges qui changent de saison en saison. Entre guillemets, les trois premières saisons d'Under the Dome n'avaient rien à voir, les trois uniques saisons d'Under the Dome n'avaient rien à voir l'une avec les autres. Extent était rebooté à la fin de sa saison 1. Zoo, c'est la première saison des séries estivales, la première série des estivales de CBS qui a une saison 2 ou qui semble continuer sur la même longueur d'onde que la première. Je me trompe ?
C'est ça, même si on note quand même en saison 2 une accentuation du à vraiment n'importe quoi, c'est à dire que là ils y vont à fond, c'est on regarde plus la série pour l'intrigue, hein. Moi je regarde désormais la série juste pour les dialogues, pour voir à quel point ça va être n'importe quoi sur les animaux, les pouvoirs. D'épisode en épisode, on est sur une série très très épisodique, c'est-à-dire que dans chaque épisode désormais, il y a un nouvel animal qui a un nouveau pouvoir. Et en gros, maintenant, on en est au style, l'animal de l'épisode, c'est une méduse qui provoque des tornades.
Je mets juste pause, 30 secondes.
Ah oui.
Il y a 10 minutes, on parlait de l'importance de Special Victim Unit sur l'éducation qui est faite sur les victimes de viol, et là on parle de méduses qui provoquent des tornades,
des paresseux qui provoquent des tremblements de terre, des fourmis électriques grâce auxquelles, si tu les mets dans des pots à confiture, si t'as quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque, tu mets les fourmis qui font des décharges électriques, tu les mets dans deux pots à confiture. Et ça te permet de relancer le cœur des personnes qui ont un arrêt cardiaque. Donc on en est à ce genre de n'importe quoi, sachant que désormais ils vivent dans un grand avion. Les trois quarts des scènes, il doit y avoir un problème de budget. Donc les trois quarts des scènes se passent dans un grand avion où il n'y a pas de personnel, etc. Mais tout est défoncé à chaque épisode. Le lendemain, tous les murs sont remis en place, etc. Les scénaristes se sont rendus compte que bon, ça commençait à se voir, donc maintenant ils font des petites blagues, genre ah, c'est bizarre. Mais c'est plutôt une série rigolote. Maintenant, effectivement, on n'est pas. Voilà, c'est pas un ratage comme Under the Dome, c'est une série qui assume. Le côté action aussi, c'est une série dans laquelle, quand il n'y a pas des dialogues sur les ADN à trois hélices et. Et les taupes, je sais plus ce qu'elles peuvent faire comme pouvoir, je sais plus ce qu'elles ont comme pouvoir. Il y a des jolies séries d'action, donc c'est une jolie scène d'action. C'est une chouette série pour se vider la tête.
Moi j'ai commencé le premier épisode de la saison 2.
C'est le plus mauvais, hein, les deux.
Non, mais moi j'ai arrêté au milieu, c'était tellement.
Mais j'ai arrêté après un quart d'heure.
Non, mais oui.
Parce que je revenais avec. Beaucoup d'enthousiasme, on me dit ah bah cool, une série fun pour cet été, et après je me suis rappelé que ah ouais, quand même, c'est Zoo.
Eh mais oui, hein, c'est ça qui m'a un petit peu arrêté hein, dans mon élan aussi. Hein.
Le double épisode est désastreux. Les deux premiers épisodes de la saison sont désastreux.
Et Riz, ça donne envie de regarder ? Ah, ça donne envie non. de bailler déjà, visiblement. Mais,
Non, ça me donne pas envie de regarder parce que.
Non, mais
pourtant, je suis fan des Corey Burns. J'adore les Corey Burns, mais pourtant, dans d'autres podcasts, ils m'avaient donné envie de regarder. Mais là, ils me donnent un petit peu moins envie de regarder.
C'est le coup des fourmis électriques dans les.
Un petit peu, oui.
Mais moi, je pensais que c'était des préliminaires pour les Blancs. J'imagine que c'est ce que vous faites avant de commencer.
On a vu pire.
Donc, on dit au revoir à Zou. On est d'accord.
Oui. On dit au revoir à Zou.
Est-ce que Casual aura plus de chances de rentrer en finale? Alors déjà, Casual, de quoi qu'est-ce que c'est?
C'est une série de Hulu.
La plateforme qui diffuse The Mindy Project, passage.
Oui. Et donc, c'est sur une famille un peu recomposée. Il y a le frère et la sœur hein, qui vivent ensemble parce que la sœur sort d'un divorce. Hein, et elle a une fille qui est une adolescente de 16-17 ans. Et en gros, on suit leur vie, quoi.
Alors, c'est une comédie ?
Voilà. C'est une comédie.
Est-ce que c'est vraiment drôle ?
C'est assez drôle, oui.
Parce que...
Je me suis jamais vraiment marrée dans
Casual. Ouais, moi c'était mon gros souci. Moi, je suis venu pour regarder, j'ai regardé la série pour Michaela Watkins.
Ouais.
Que j'adore Michaela Watkins de All Christine et de SNL.
Ouais.
Et je me suis retrouvé dans une série où l'oncle regarde la nièce faire l'amour à son copain.
Oui. Dans le jacuzzi. Dans il est tombé jacuzzi. Dessus par hasard.
Mais il est resté quand même. Ah, je suis seul à trouver un côté creepy.
Il est creepy, non, le personnage de l'oncle est creepy.
Ah ouais?
Pourquoi t'as un grand sourire maintenant, Iris, quand on dit ça?
Je sais pas, parce que je le trouve plutôt mignon, le personnage de l'oncle.
Qui jouait dans The Mindy Project, au passage.
Ah oui?
Ah ouais?
Ouais. C'était l'un des nombreux copains de Mindy.
Non, moi je regarde surtout pour...
Moi j'adore le personnage de l'adolescent.
Ouais, l'ado est vraiment chouette. Hein.
L'ado est vraiment très très chouette. C'est ces storylines que je préfère dans les deux saisons.
Moi ce que j'aime c'est que c'est une série avec trois personnages principaux et c'est très très équilibré. Mmh. Ils réussissent vraiment à partager les épisodes entre ces trois personnages avec une chouette constance. Oui, le personnage que j'aime le moins, c'est peut-être le frère.
Ouais.
Mais foncièrement, avec cette saison 2, je trouve que la saison 2 est supérieure à la première.
Ouais, je trouve aussi, oui.
Elle élargit l'univers, il y a de nouveaux personnages qui se greffent et qui font partie de cet univers un peu étrange. J'aime beaucoup le fait que Michaela Watkins ne porte jamais de talons. Elle est toujours en chaussures plates. Ça dure 20-25 minutes. Et alors, c'est effectivement les problèmes de gens blancs, riches, qui n'ont que comme seule préoccupation de savoir s'ils sont vraiment heureux et comment faire pour être plus heureux. Mais, mais en gros, non.
C'est bien, c'est vraiment bien, mais je l'amènerai pas en finale.
C'est quoi ce mec? Qu'est-ce qui motive ce mec?
C'est comme c'est du Woody Allen, mais qui est pas pédophile, tu vois. C'est ça qui est.
qui reste creepy, hein. Il y a quand même l'oncle qui mate copine, sa nièce en train de faire l'amour dans un jacuzzi.
Ça dure 4 secondes, c'est en première saison.
Oui,
mais c'est parce qu'il est intrigué.
Oui.
Il y a un côté, dans Casual, le temps qui passe et tout, hein, elle arrive à 40 ans, donc c'est le début de la fin de sa vie. Hein.
Mais il est assez détaché aussi hein, par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il a une relation au sexe qui est assez détachée et finalement, ça fait partie de son personnage aussi, quoi.
Ouais.
Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est pas plus une série qui mérite qu'on en parle pour sa distribution plus que pour son écriture? En gros, Michaela Watkins, c'est formidable.
Ah non, c'est vraiment très très bien écrit. Moi je trouve que
c'est vraiment bien, Casual, c'est vraiment bien.
Voilà. Mais qu'est-ce qui motive le mais?
Non, il n'y a pas de mais.
Bah si, tout à l'heure, il y a un mais.
Ah, mais c'est juste que je considère que Grey's Anatomy mérite plus d'aller en finale. Je sais très bien qu'ils ne se débarrasseront pas
de indépendamment, moi. Indépendamment du fait que dans ce podcast, il n'y aura qu'un seul gagnant, ce serait quoi le défaut principal de Casual?
Il n'y en a pas.
Bah moi, je verrais bien des saisons plus longues. Hein.
Et bah, la saison 2, ouais, c'est 13 épisodes, alors que la première, c'était 10.
Ouais.
Oui, ça pose aucun souci. Hein. On sent pas que en saison 2 on se dit pas tiens c'est un peu étiré etc. On sent vraiment que ils ont des choses à dire. Les personnages existent. Ouais, on a envie de connaître un peu tout le monde. Non, enfin il y a j'ai pas vraiment l'impression qu'on est de réserve.
J'ai envie de garder Grey's Anatomy en finale. Je sais très bien qu'elle gagnera jamais, mais j'ai envie de la garder en finale.
Et pour moi c'est clairement la meilleure série de l'été, enfin c'est la meilleure saison de
C'est clairement la meilleure série de l'été, c'est clairement la meilleure série.
Si ça avait été un podcast sur les meilleures séries de l'été comme c'était prévu à l'origine, elle aurait pu gagner, mais manque de bol.
Manque de bol.
On a refusé de respecter mon planning. Alors, Casual, est-ce que ça mérite de détrôner soit Olivia soit Meredith?
Non.
Bon, alors bon, je pense pas que la série suivante risque de se retrouver en finale, mais elle mérite qu'on s'y attarde deux minutes. Superstore.
Oui.
Oh. Ah, j'ai pas vu.
Oui, Superstore, c'est super chouette.
J'ai pas vu, je vais faire pipi. Ça, c'était la phrase de GG. Donc, de quoi ça parle?
Superstore, ça parle d'employés d'un grand magasin.
Ouais, un gros supermarché.
D'accord.
C'est une espèce de comédie très efficace.
Alors, pourquoi NBC ne l'a pas annulée et capitalise un peu sur Superstore pour essayer de relancer sa gamme de comédie en la couplant l'année prochaine avec The Good Place?
Je pense qu'il y a une vraie demande pour les workplace comédies. Hein.
Mais on se rappelle de NBC qui avait décidé de s'éloigner un peu des concepts de niche et... pour aller vers des comédies plus grand public. Est-ce que Superstore rentre dans cette ancienne politique que NBC avait, ou elle est aussi compatible avec cette politique de comédie de niche à la Parks and Recreation, 30 Rock?
Je pense que c'est une excellente question.
Oui, et je n'ai pas la réponse.
Non, je pense que ce n'est pas une série de niche. Je ne pense pas que ce soit une série de niche. Non. C'est clairement pas une série de niche. C'est clairement pas un Parks and Rec, c'est clairement pas un The Office. C'est plus un Malcolm in the Middle ou un truc du genre.
Donc ça reste une série qui est abordable pour un grand public, mais qui va pas faire fuir un public qui recherche des comédies de qualité.
Oui, voilà, ouais, je pense.
En gros, c'est pas la série...
C'est une comédie de qualité.
C'est pas la...
une comédie de qualité, je trouve.
D'accord.
Oui.
S'il y avait un défaut à la série, ce serait quoi? Son défaut principal?
Elle est trop courte.
Il n'y a aucun défaut.
J'ai pas de défaut qui me vienne à l'esprit. Mais
c'est bien dès le début.
Son seul défaut, c'est de ne pas être Grey's Anatomy ou SVU.
Je pense qu'ils l'ont mis dans un mauvais slot hein, au départ. Dans quel slot ils l'ont mis hein,
j'ai aucune idée.
Et je crois qu'ils vont changer à la rentrée. Là, ça change. Ils le mettent, je pense qu'ils vont la mettre en avant. Hein, parce qu'ils ont compris que les gens l'aimaient.
Ouais.
Et qu'America Ferrara est merveilleuse hein. Et que tout le monde l'aime hein. Et qu'on a envie de la voir avec ses amis.
Il y a qui d'autre dans la distribution qui est intéressant?
Il y a le gars de Living
With Lauren Ash qui joue Dina.
Il y a qui, pardon?
Lauren Ash, elle n'est pas connue, c'est une Canadienne, mais elle joue Dina, qui est une espèce de Dwight, mais... c'est très réducteur de dire ça. Elle est beaucoup plus intéressante que Dwight.
Et j'aime beaucoup celui qui joue Jonah, me dit IMDb, Ben Feldman.
Oui.
On avait pu voir très brièvement dans A2Z.
A2Z.
Non, on l'a vu sur autre chose.
On l'a vu dans Living with Fran, c'était le fils de Fran Drescher dans Une Nuit d'enfer numéro 2.
Exactement.
Je n'ai pas vu
celui-là. Il était dans Mad Men aussi, c'est celui qui s'arrache son téton.
Coupé le téton.
Il était dans Mad Men, oui.
Encore une fois, des préliminaires de gens blancs, j'imagine.
Le truc à savoir, c'est que c'est des acteurs de... Ils ont pris des acteurs d'impro.
Ah!
Et en fait, il y a beaucoup des scènes qui sont improvisées. Hein.
Je ne savais pas. Et c'est bon à savoir.
C'est ce que j'ai appris quand je les ai vus au festival à Triex. Ils ont fait une présentation du finale de la saison 1 et ils ont parlé de la série et je ne savais pas, mais oui, ce sont des acteurs d'impro et en fait, ils improvisent de nombreuses scènes.
Super cool.
Voilà.
Super cool.
Et ils ont l'air de vraiment bien s'entendre et de bien rigoler ensemble et c'est chouette à voir.
Ouais, enfin, ils ont tourné que 9 épisodes.
11.
11 ?
C'est bizarre, 11 comme, comme nombre d'épisodes pour une saison, non ?
Ouais.
Bah parce que ils ont été, c'était du mid-season et ouais,
ok, voilà. Très bien.
Mais ils ont une saison complète là, la saison 2 ce serait une saison complète.
Tant mieux.
C'est 22 ou 13 la saison.
Bah Nico est parti maintenant, donc on sait pas nous
ouais.
Ce genre de choses. Et puis c'est pas comme si on avait des portables qui pourraient aller sur internet. Non, nous on va utiliser nos portables pour voter parce que j'imagine que Superstore ne fera pas partie de la finale.
Mais ils ont bientôt un épisode là qu'ils vont diffuser pour les Jeux Olympiques.
Ah ouais ?
Ouais, ils ont un épisode spécial Jeux Olympiques qui va être diffusé bientôt.
Alors, j'ai déjà un vote.
Quoi ?
Ah merde.
Ouais, mais comme on est que 3, c'est pas.
On a pas besoin de vous stresser, pas besoin de vous presser, parce que contrairement aux deux podcasts précédents, vous n'êtes que 3, donc les 3 votes comptent.
Oui, mais ça m'est égal, c'était une envie d'au moins lui réserver un petit quelque chose, parce que je sais qu'elle va perdre.
Alors, le truc qui est très très intéressant à voir, c'est est-ce que Fertis et Gégé vont continuer à voter en adéquation ?
Bah oui, évidemment.
Bah oui, évidemment. Et la gagnante, c'est Olivia. C'est SVU. Yeah. À juste titre.
Voilà. Le underdog SVU. J'ai hâte de découvrir ça.
Ah.
T'as tellement de la
chance.
C'est
cool.
Et bien, sur ces bonnes paroles, on vous dit au revoir.
Et on espère que vous découvrirez ça aussi.
Mais si vous ne regardez pas SVU, il faut vraiment, vraiment regarder. Et on se retrouve le mois prochain. Alors, j'aimerais bien vous donner un thème, mais je suis sûr qu'on vous le fera changer. Donc,
ce sera la surprise.
Exactement. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Ciao. Au revoir.